Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, distingués collègues, c'est un honneur et un plaisir pour moi de représenter mon pays, la République de Djibouti, à cette 65e Assemblée mondiale de la santé. Je voudrais d'emblée adresser mes sincères félicitations à vous, Madame la Présidente, pour votre élection pour conduire les travaux de la 65e Assemblée mondiale de la santé et vous réitérer toute la confiance et le soutien de la délégation djiboutienne. J'exprime mes voeux de succès à votre pays, engagé dans un processus de réconciliation nationale qui contribuera, nous en sommes persuadés, à panser les plaies du passé et raffermir la cohésion nationale. Je voudrais également exprimer mes vifs feux de réussite à vous, Madame la Directrice Générale de l'OMS, à qui les États membres viennent de renouveler leur pleine confiance sur la base des résultats probants obtenus au cours de votre premier mandat, pour le leadership que vous avez offert et les stratégies que vous avez conçues pour relever les principaux défis sanitaires auxquels les pays, les régions et le monde entier sont confrontés. Nous saluons également l'engagement dont vous faites preuve dans le processus de réforme en cours de l'OMS afin d'adapter notre organisation à un environnement mondial de plus en plus complexe et les solutions prônées afin que la santé occupe une place centrale à l'ordre du jour politique et qu'elle soit érigée comme une priorité mondiale. À cet égard, une attention prioritaire doit être accordée à la question du financement et tous les efforts doivent être déployés afin de garantir une mobilisation accrue des ressources flexibles et prévisibles si l'on doit relever avec succès les défis sanitaires multiples et multiformes. Madame la Présidente, permettez-moi de consacrer une part importante de mon allocution à la problématique du changement climatique qui constitue une réelle menace, la plus évidente de cause des risques sanitaires, devant laquelle tout porte à croire que le peuple ne serait pas au même degré de vulnérabilité et de souffrance. Dans mon pays, qui est de tradition nomade, la sécheresse chronique est responsable, autre incidence, de deux formes de malnutrition, aiguë et chronique, qui influe sur les indicateurs de santé et hypothèque les chances de développement. Ces problèmes sanitaires qui touchent directement un tiers de la population nationale sont observés dans les campagnes et dans les villes où le zone rurale et l'immigration ont contribué à la prolifération des quartiers échappant aux normes d'hygiène et de santé. Les diarrhées, les fièvres d'origine inconnue, l'anémie et d'autres maladies infectieuses profitent de cet état de malnutrition qui ne faiblit pas malgré le renforcement à travers tout le pays des stratégies de soins couplées avec des centres de récupération nutritionnelle. Ce qui a réduit aujourd'hui, c'est l'ampleur de malnutrition chronique qui touche 30% d'enfants et les conséquences inévitables sur le fonds d'avenir, notamment par des effets de retard de croissance physique et intellectuelle imputables à déficience d'apport nutritionnel essentiel. Mesdames et Messieurs, le second thème que je voudrais évoquer devant cette auguste assemblée serait dans le même ordre d'impact avec les mêmes facteurs d'expansion tels que les perturbations climatiques, les modes de vie sédentaires, les habitudes alimentaires. Encore une fois, la part humaine dans la prolifération des épidémies des maladies non transmissibles pose plusieurs niveaux de responsabilité que les spécialistes n'ont cesse de marteler à tous les congrès scientifiques. Encore une fois, les habitants des pays en voie de développement se révèlent être des victimes collatérales de ce qu'il est convenu d'appeler des maladies du temps moderne. À l'instar du reste du monde, ces dernières décennies, mon pays a fait face à la montée fulgurante de diabète, des maladies cardiovasculaires, des cancers et des maladies mentales qui touchent toutes les catégories d'âge et de sexe. Là aussi, nous sommes conscients de la gravité de la situation, mais ces maladies mortelles ne pourront être endiguées tant que des industries du tabac, d'alcool et d'autres substances polluantes en pignon sur rue. Ce qui m'amène à ce troisième thème, non moins important, de la couverture sanitaire universelle, dont je voudrais rappeler l'enjeu et la complexité, notamment dans le pays à faible économie. Une utopie qui n'a pas l'air d'être lorsque des milliards et des milliards de dollars sont engloutis dans des produits non essentiels pour le confort humain, mais potentiellement dangereux pour la santé. Au niveau de mon pays, il existait jusqu'ici un régime de sécurité sociale desservant 55% de la population, mais qui ne couvrait l'étendue des besoins en soins et en médicaments. Le Le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'apprête à élargir la couverture à tous les secteurs d'activité, formels et informels, avec des souscriptions directes et des conditions strictes en termes d'actes médicaux, des produits pharmaceutiques et des prestataires agréés. Ainsi, notre ambition est de remédier aux inégalités dans le domaine de la santé et de favoriser l'accès à des soins et des médicaments pour tous, tandis que l'État continuera à couvrir les frais médicaux des patients certifiés insolvables. Toutefois, aucune couverture de santé universelle ne peut supporter les dépenses colossales de la santé dans un monde global où la course au développement et la surindustrialisation d'une poignée des États influent négativement sur les indicateurs de santé de l'ensemble du pays, confrontés à des propagations des épidémies, des maladies transmissibles et non transmissibles. Une assemblée comme celle-ci est l'occasion d'espérer que les États membres décident d'une seule voix l'application des quotas d'émission des gaz polluants, des taxes spéciales sur le produit manufacturé, des firmes industrielles et même sur des états polluaires en fonction du degré de nocivité. Ces mesures financières permettraient d'une part de compenser le déficit du système de riposte mondial contre des maladies émergentes et d'autre part de créer des barrières économiques à la consommation de certains produits nocifs comme le tabac, l'alcool, le soda et les crèmes éclaircissantes. Grâce à ces ressources financières, il serait possible également d'accompagner en amont la reconversion des populations rurales à de nouvelles activités, de garantir la sécurité alimentaire et ainsi la santé de la mer à la malnutrition et des maladies évitables.
Monsieur le délégué, vous pouvez terminer votre intervention, s'il vous plaît.
Je voudrais attirer l'attention de cette assemblée sur la situation des personnes vivant avec le VIH-SIDA à Djibouti. En effet, à compter du 31 mai 2012, le Fonds mondial, pour des raisons budgétaires, ne pourra pas prendre en charge les nouveaux contaminés que l'on situe en moyenne entre 400 et 600 personnes par an. Les bailleurs de fonds traditionnels, conformément à l'accord conclu avec le Fonds mondial, ne sont pas disposés à financer l'achat des antirétroviraux. Face à ces situations que nous jugeons alarmantes, nous lançons un appel à la communauté internationale afin qu'elle agisse dans le sens qui dicte la responsabilité. L'inaction réduirait à néant les efforts déployés et les résultats tangibles jusque-là obtenus. Le sida est une menace globale, un péril à la sécurité collective qui exige une riposte mondiale. Merci de votre aimable attention.